Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Cette histoire commence dans une ville dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois à la radio et à la télévision. Deraa, au sud de la Syrie, à la frontière avec la Jordanie. 80 000 habitants. C'est là que vit, à la veille de l'an 2000, notre petit héros du jour, Etam, 4 ans. Etam Al-Aswad. Il vit là avec sa maman et son petit frère. Son père est professeur de mathématiques, mais il ne vit pas en Syrie. Il vit au Qatar, à 2000 km de là. Et pourquoi? Oh, parce qu'il n'aime pas beaucoup le régime du président Hafez el-Assad. Il n'aime pas le parti unique, le BAS, qui contrôle tout, qui muselle toute opposition. Les services de renseignement qui surveillent tout le monde. Le père d'Etam est un opposant. Et d'ailleurs, quand le président Hafez el-Assad meurt, en 2000, vous savez ce qu'il dit à sa famille, au téléphone?
Le tyran est tombé. Il y a une justice dans ce monde.
Sauf que qui succède à Hafez el-Assad après qu'on eut tripatouillé la Constitution? Eh bien son fils, pardi. Son fils Bachar, le tyran n'est pas complètement tombé. Il a juste changé de visage. Il est juste plus jeune. Mais bon, en 2001, le père d'Etam rentre au pays, excès d'optimisme peut-être. Il rentre, mais il ne récupère pas un poste de professeur de mathématiques. On le colle au placard dans un bureau des statistiques d'un obscur ministère. Il faut dire que comme prof, pour le régime, il n'est pas très fiable. Vous savez ce qu'il disait aux élèves quand il était prof?
Cessez de répéter toujours les mêmes slogans. L'école n'est pas un centre militaire. Je sais qu'on demande à certains d'entre vous de jouer les informateurs, mais ici, c'est un lieu d'éducation. C'est pas un lieu d'embrigadement.
Bref, les voilà tous réunis dans la maison familiale de Deraa. La grand-mère au rez-de-chaussée, et Etam, son père, sa mère et son petit frère juste au-dessus. Bachar, quand il succède à son père, fait un geste. Il libère des opposants politiques. On les retrouve le soir même, dans le salon familial.
Je les entends, ils parlent à voix très haute, mais je comprenais rien du tout à ce qu'ils disaient, c'était des discussions politiques. Et évidemment, ça a causé beaucoup d'embrouille pour mon père. C'est-à-dire, de temps en temps, il est demandé chez des officiers pour qu'il... Il l'interroge, mais il a eu beaucoup de chance, contrairement à beaucoup de ses amis. Il n'a pas été arrêté, il n'a pas été en prison pendant une longue période.
Etam, pendant ce temps-là, il a 5 ans, il est à l'école et il fait ce qu'on lui dit de faire. Comme les autres, il apprend par cœur des citations d'Hafez, puis celles de Bachar. Et quand la ville de Deraa reçoit une personnalité, comme tous les enfants, il est mobilisé pour aller agiter de petits drapeaux sur le bord de la route. À 5 ans, il n'y voit pas de mal.
On était à l'école et puis parfois il nous ramène des bus, parfois on va tous à pied avec les maîtresses de l'école, avec les professeurs. Et on a des drapeaux, on a plein de photos, il nous distribue tout ça. Et on crie et on chante, vraiment quelque chose qui pour un enfant donne beaucoup de joie. Parce que c'est comme une fête.
Et la vie suit son cours pour la famille Al-Aswad. Pendant 10 ans. Et puis arrive l'année 2011, la fameuse année des printemps arabes, qui commence en janvier par la chute du régime du dictateur tunisien Ben Ali. À Deraa, les gens n'en perdent pas une miette. Ils passent leur soirée collés devant la télévision, en se disant « pourvu que ça nous arrive à nous aussi ». Il suffirait de pas grand-chose au fond. Un déclencheur, une étincelle. Et cette étincelle a lieu le 22 février 2011.
Il y avait des collégiens qui ont écrit sur le mur de leur école « C'est ton tour, Bachar ». Des collégiens qui, je suppose, ils ont regardé la télé avec leurs parents, ils ont vu ce qui se passe dans le cadre du printemps arabe, ils ont voulu imiter ça. En réponse, les polices arrêtent ces plusieurs collégiens et ils les torturent. Quand je dis torture, c'est vraiment, ils ont enlevé leur ongle et ils les ont électrisés. Les parents de ces collégiens, ils vont voir le chef des polices à Deraa et ils leur demandent de libérer leurs enfants. Et le chef des polices répond, oubliez vos enfants et allez en faire d'autres. Et si vous ne savez pas, amenez vos femmes et on le fera à votre place.
N'empêche que c'est parti. Le 18 mars, plusieurs milliers de personnes descendent dans les rues de Dera, le père d'Etam est en tête du cortège. Etam, lui, a 14 ans. Il est trop jeune pour manifester. Il est chez lui, il est en train de faire ses devoirs et tout d'un coup, il entend le bruit d'un hélicoptère de plus en plus fort, un hélicoptère qui survole la ville à basse altitude.
Maman ? Maman, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est une manifestation. Ton père y est. Tu ne bouges pas de la maison. Hein. C'est trop dangereux.
Etam court allumer la télévision, mais on ne parle pas du tout de la manifestation. Et pendant ce temps-là, les hélicoptères, car il y en a plusieurs, ont atterri sur le stade de Dera et ils ont débarqué des soldats qui avancent vers le centre-ville et qui commencent par lancer des grenades lacrymogènes et puis qui se mettent à tirer. Au début, les manifestants pensent qu'ils tirent des balles à blanc. Tu parles ? Ils tirent à balles réelles. Bachar a donné l'ordre de tirer sur son peuple à balles réelles. Au soir de la manifestation, on compte 2 morts. Du coup, le lendemain, nouveau rassemblement. Forcément, à cause des morts et des collégiens arrêtés, il y a plus de monde que la veille. Et le papa d'Etam est toujours là, en tête du cortège. C'est lui qui lance les slogans.
Ô Syrie, ne t'inquiète pas, nous t'offrons le meilleur de nos jeunes. Ô Syrie, ne t'inquiète pas, nous t'offrons le meilleur de nos jeunes.
En plein défilé, le téléphone du père d'Etam se met à vibrer. C'est la chaîne arabe de la BBC, la grande chaîne d'information britannique. Hier, il leur avait raccroché au nez, il pensait que c'était un piège du régime. Mais là, il leur donne une interview. Il ose. Et dans la foulée, il répond à d'autres médias qui l'appellent. Le père d'Etam est devenu un leader de la révolution qui est en marche. Et le gamin, lui, il aimerait bien rejoindre son père.
Maman, s'il te plaît, laisse-moi y aller. Non, Etam, c'est trop dangereux. De toute façon, si tu ne me donnes pas l'autorisation, ben je fuguerai pour y aller.
Alors la mère finit par céder. Que voulez-vous ? Il a 14 ans. Mais à une condition, hein, qu'il y aille avec ses cousins et surtout qu'il se tienne loin de son père. Et Etam participe à la manifestation du lendemain. Ils sont encore plus nombreux. Il faut plus de 4 heures aux manifestants pour faire les 3 kilomètres qui séparent le centre-ville de la mosquée. Et toutes les 5 minutes, la mère, morte de trouille, appelle le cousin.
Ça va ? Tout va bien ? Si ça devient dangereux, je te fais confiance, hein ? Tu le protèges, hein ?
Ce jour-là, la manifestation se déroule dans le calme. Et Etam est assez fier de marcher derrière son père. C'est après que les choses vont se compliquer. Eh oui, le père a donné des interviews à beaucoup de médias internationaux. Il était en tête du cortège de Dera. Il est dans le viseur et il sait qu'il va le payer très cher. Donc il décide d'entrer en clandestinité. Il se cache chez des gens. Ni Etam ni sa mère ne savent où il est. Mais régulièrement, ils l'entendent qui donne des interviews aux chaînes étrangères. Et pendant ce temps-là, les manifestations continuent. Et Etam n'en loupe pas une. Au grand dam de sa mère, bien sûr, mais mettez-vous à sa place. Dans son école, il essaye de mobiliser les autres. Et ça dure comme ça pendant un mois. Jusqu'au 24 avril 2011, quand le régime décide d'envoyer l'armée à Dera.
La nuit, moi j'ai vu par la fenêtre des tanks qui passent par la rue, qui sont entrés dans la ville. Et le matin... eh bien, il crie dans les rues des armées qu'il y a un couvre-feu, qu'on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Puis ils ont mis une règle que les femmes ont le droit de sortir après telle heure, entre telle heure et telle heure. C'était terrifiant.
Et maintenant, les écoles et les administrations sont fermées. Il n'y a plus d'électricité, plus d'internet, plus de téléphone. Et on commence à manquer de nourriture.
Les habitants des villages entourant Dera, ils ont décidé de ramener du lait et du pain. Ils ont marché des kilomètres à pied, tout en portant des branches d'olivier, pour signaler vraiment que leur acte est pacifique. C'est que pour aider les habitants de Dera à se nourrir. Et à l'arrivée à Dera, ils sont entrés. Et quand ils étaient au milieu de Dera, au centre de Dera, l'armée a ouvert le feu. Et c'était le plus grand massacre depuis le début jusqu'à ce moment-là. Moi, j'étais pas loin. Des gens couraient partout. C'était sans pitié. Le lendemain, moi, je suis passé à côté. Tout ce qu'on voyait dans la rue, c'était des chaussures des gens qui essayaient de fuir. C'était du lait et du pain, tout mélangé avec leur sang.
Une répression terrible. Et les manifestations continuent. Et à un moment donné, la mère commence à avoir peur. Et comme elle a une cousine qui a une ferme en dehors de la ville, elle prend la décision de partir, de mettre la famille au vert. Ils partent un soir, malgré le couvre-feu, c'est dangereux. La voiture se fait arrêter à un premier barrage.
Bonsoir. Vous savez que vous n'avez pas le droit de circuler. La vie n'est plus tenable ici. On fuit.
Le soldat les laisse passer. Mais il les prévient, il y a encore un barrage plus loin. Et là encore, on les laisse passer. Et tout au long de la route, ils croisent des gens qui leur demandent des nouvelles de Dera.
Bonjour, vous avez vu ma fille? Elle va comment?
Ils vont rester 2 semaines dans cette ferme. Etam en profite pour bûcher et préparer son brevet. Et puis, d'après ce qu'on dit, ça se calme à Dera. Alors il rentre. Et à l'entrée de la ville, il tombe sur un barrage.
La barrière des polices nous arrête. Ils demandent les cartes d'identité. Et puis, d'un coup, ils demandent à ma mère de descendre de la voiture. Ils attendent un peu. Ils appellent quelqu'un. Ils la mettent dans une voiture et ils la prennent. Et nous, on comprenait plus rien. Pourquoi ? Ma mère, elle était pas partie dans des manifestations. Elle a rien fait. On essaie de les suivre avec la voiture et on les voit entrer dans le stade de Dera. Et ce stade, à cette époque-là, était connu pour un lieu d'arrestation et surtout d'exécution. Donc là, on flippait vraiment et je me demandais si j'allais revoir ma mère un jour.
Le stade où on a amené sa maman est éclairé par d'immenses projecteurs. Et là, on l'interroge. Où est son mari? Où se cache-t-il?
Comment ça, vous n'êtes pas au courant? On a divorcé il y a maintenant 3 mois. J'en avais marre de ses prises de position. Je ne veux plus rien avoir avec lui.
Elle ment, bien sûr. Mais elle sait que le bâtiment qui hébergeait l'état civil a brûlé. Et que donc les policiers n'ont aucun moyen de vérifier cette histoire de divorce. Et il la relâche. Le père, lui, est toujours en clandestinité, mais ça devient vraiment dangereux pour lui. Alors c'est décidé, on va l'exfiltrer de Syrie. Des amis le conduisent jusqu'à la frontière jordanienne. Il ne va pas y rester longtemps. La France lui accorde l'asile politique. Eman al-Aswad s'envole vers Paris, en laissant derrière lui sa femme et ses 2 enfants. C'est un arrachement, mais il n'a pas le choix. À Dera, les choses se calment un peu. Etam passe son brevet, qu'il obtient brillamment. 301 points sur 310. On n'est pas loin du carton plein. Mais attention, c'est le fils de son père. Il a en quelque sorte repris le flambeau. Avec un de ses potes, il vient de créer une page Facebook. Il veut fédérer les écoliers révolutionnaires de Dera. Oui, monsieur, à 15 ans. Il a récupéré notamment toutes les vidéos des manifestations et il les met en ligne. C'est courageux. C'est dangereux. Mais il ne pourra pas aller au bout de son projet. Car un matin, sa mère déboule dans la chambre.
Elle me réveille, elle me dit « On va quitter la Syrie ce soir ». Je dis « Non, comment ?» Bon, pas de discussion, elle a été traumatisée par son arrestation. Trop peur pour nous. À un moment même, elle a été appelée pour signer un papier que moi et mon frère ne manifestons plus à l'école, par exemple. Donc elle avait très peur pour nous.
Ils vont s'enfuir ce soir. Mais évidemment, ça doit rester secret. Secret, pas facile. Et Tam veut quand même dire au revoir à ses copains.
Allô? Oui, Sam? On peut se voir tout de suite? Avec Tarek?
Les 3 garçons vont manger un shawarma et à un moment donné, Etam craque.
Mes amis, en fait, je vais partir ce soir. Ma mère a décidé qu'on allait quitter le pays. Oh non! Bon, en même temps, c'est mieux comme ça, non? Tu reviendras quand la situation sera meilleure. Là, c'est complètement pourri.
Etam, sa mère et son frère font leur sac. Ils ne peuvent pas prendre grand-chose, si ce n'est quelques photos. Et ils disent discrètement au revoir à la famille.
Je dis au revoir à tout le monde. La voiture arrive devant chez ma grand-mère. Je monte dans la voiture et la dernière fois que je vois ma grand-mère, c'était mes yeux ont croisé ses yeux et elle était en larmes. Moi aussi, j'étais en larmes à ce moment-là. Et je me rendais compte que je me fais virer de mon propre pays, que peut-être demain, je ne pourrai plus revenir dans mon propre pays et que peut-être je ne verrai plus mes deux grandes-mères. Et en effet, c'était la dernière fois que je vois mes deux grandes-mères qui sont décédées plus tard parce qu'elles étaient âgées.
C'est un cousin qui conduit la voiture qui les amène tous les trois vers la frontière jordanienne où les attend un passeur. Et là, ils attendent la tombée de la nuit.
Ma mère stressait vraiment beaucoup. Et bon, moi aussi, mon frère, je me rappelle, il me tenait la main. Il était entre ma mère et moi. À un moment, il serrait vraiment beaucoup la main, c'est-à-dire il avait très peur. Une fois la frontière traversée, il y a deux policiers qui nous sautent devant nous, ou deux soldats, qui nous disent « Levez vos mains » et qui mettent une lumière, qui nous pointe en lumière. Donc on lève les mains. Pour une seconde, on a cru que c'était l'armée syrienne. Donc on s'est dit « C'est fini ». Mais ils nous ont expliqué que c'est l'armée jordanienne qui sont là à la frontière. Et ils étaient très très gentils.
Ils sont sauvés et on les conduit dans un bureau pour s'enregistrer. Ils ne vont pas rester longtemps en Jordanie. Car le père, bien sûr, est derrière ce départ précipité. Il a tout préparé, les billets d'avion pour Paris et les papiers pour le statut de réfugié. Et 5 jours plus tard, Etam, sa mère et son frère s'envolent pour Paris. Et les voilà à l'aéroport de Roissy. Et le papa est à l'arrivée, bien sûr, 1 an qu'ils ne se sont pas vus. Et vous savez quel est le premier contact d'Etam avec la France? Un McDo. En sortant de l'aéroport, il s'arrête dans un McDo. C'est ballot, mais Etam en rêvait. Il avait vu les pubs à la télé et sur Internet. Un rêve d'ado, comme les autres. Et ensuite, toute la famille rejoint son nouveau chez-soi, à Antony, dans la banlieue sud de Paris. N'imaginez pas un appartement. C'est une simple chambre de cité U, à 4. Et la première chose que fait Etam quand il arrive dans la piole, c'est d'allumer son ordinateur.
Dès que j'ai ouvert mon ordinateur, je vois plein de réseaux Wi-Fi, puis je me connecte et l'internet est tellement rapide, j'appuie sur Enter et Google ouvre en une fraction de seconde. Alors qu'en Syrie, j'allais dans des cafés nets, on appuie Enter et on attend quelques minutes pour que ça ouvre. Des sites qui sont évidemment interdits comme Facebook, YouTube, ils sont interdits d'accès. On avait quelques méthodes pour y accéder. Donc même les petits détails, ça changeait beaucoup. Même les petits détails, on voyait par lesquels cet aspect de liberté.
L'internet haut débit, symbole de la liberté. Et après? Mais après, c'est la découverte de Paris, le RER, le Louvre, la Tour Eiffel. Au début, Etam ne va pas à l'école. Pour ça, il faut faire des démarches. C'est long. Alors pour tuer le temps, avec son frère, ils vont au stade d'Antony. Ils ne parlent pas un mot de français. Et les gamins qui jouent au foot là-bas ne parlent ni arabe, ni anglais. Mais bon, le langage des pieds qui courent après une balle est assez universel. Et puis, 2 mois après leur arrivée, en mars 2012, on leur désigne une école et une classe pour non-francophones, où ils se retrouvent avec des Nord-Coréens, des Chinois, des Ukrainiens. Etam se fait tout de suite pote avec le Nord-Coréen, Kom Chon. C'est le seul qui parle anglais. Mais bon, il est déterminé à apprendre le français, et vite. Et d'ailleurs, tous les soirs, il se fait des petites fiches avec tous les mots qu'il a appris dans la journée. Et l'été qui suit, ça c'est une idée d'un ami de son père, il file dans une famille française à Nantes, en immersion.
C'est chez eux que j'ai vraiment progressé beaucoup, parce que c'était 2 mois sans que je parle un mot en arabe. Je ne parlais que français. C'est là que pour la première fois je sortais avec des jeunes de mon âge, parce que le fils de cette famille, Basile, il avait mon âge. C'est par exemple avec les amis de Basile que pour la première fois j'ai vu pour la première fois un peu les vies des jeunes ici en France. C'est là où j'ai appris mes premiers gros mots en français.
Eh oui, ça passe aussi par les gros mots, la langue française. Et pendant ce temps, ils habitent toujours tous les quatre dans leur chambre de CTU d'Antony. Jusqu'au jour où le Crous, figurez-vous, fait changer les serrures. Un ami de son père leur trouve un appartement, Porte d'Italie, à Paris. Et plus tard, un ami syrien leur dégote un appartement en banlieue. Ah, je ne vous ai pas dit, mais grâce à ses progrès en français, Etam a pu rentrer en troisième, une troisième normale. C'est pas mal, non? Pour un gamin de 15 ans qui ne parlait pas un mot de français il y a quelques mois. Sauf qu'à la fin de l'année, on veut l'orienter en lycée professionnel. Et ça, il n'en veut pas. Il veut passer son bac, il a de l'ambition, c'est un fils de prof. N'oubliez pas. Alors il finit par dégoter une place au lycée Honoré de Balzac dans le 17e arrondissement de Paris. Pas mal. Et c'est là qu'il va rencontrer Suzanne, grâce à laquelle je peux vous raconter son histoire aujourd'hui. Car Suzanne, un soir en rentrant chez elle, parle d'Ethan à sa maman. Et sa maman est journaliste à l'agence France Presse.
Et elle m'a rencontré dans un café et elle parlait de ce que je fais au lycée, que bon, dans les matières scientifiques, j'avais des assez bonnes notes. Donc elle a parlé de ça pour parler d'un cas particulier, d'un Syrien en France. Et après cela, après la publication de l'article, j'étais contacté par quelques journaux, quelques chaînes. Et j'avais envie de le faire pour témoigner, pour parler de ce que j'ai vu avec mes yeux en Syrie. Parce que je sens que c'est un devoir pour moi, que tout le monde sache ce qui se passe en Syrie.
En juillet 2015, Etam Alassoua décroche son bac S avec mention bien. Et aujourd'hui, il étudie les mathématiques à la faculté d'Orsay.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.